Bonjour Tiphaine, aujourd'hui au deuxième jour de notre série sur le Gréco, nous partons dans les salles de l'exposition du Grand Palais consacrée au grand maître de Tolède.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Tout au long des 73 années qu'a duré sa vie, le Gréco a su agréger d'abord les traditions picturales de sa jeunesse de peintre d'icônes, puis les leçons de la peinture italienne, à la fois à Venise et à Rome, qu'il a fondu ensuite dans un art espagnol profondément original, assez pour marquer, des siècles plus tard, les peintres des avant-gardes. Sa vie, c'est celle de cet approfondissement, toujours plus poussé de son art, et c'est Pascal Hamel qui nous l'a raconté hier au cours d'une émission à réécouter en ligne. Et puis demain avec Guillaume Kienz, nous élargirons la problématique du Gréco à celle du siècle d'or espagnol dont il est l'un des premiers grands artistes. Enfin jeudi, nous écouterons un peintre parler de lui, en l'occurrence Jean-Paul Marcheschi, avant de nous interroger sur l'extravagance du Gréco. Ce sera en compagnie d'Anne-Sophie Molinier. Et aujourd'hui... Aujourd'hui, pour présenter l'œuvre du Gréco dans les salles mêmes de l'exposition qui lui est consacrée au Grand Palais à Paris jusqu'au 10 février prochain, nous sommes avec vous, Charlotte Chastel-Rousseau. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conservatrice pour la peinture espagnole et portugaise au Musée du Louvre. Vous êtes aujourd'hui commissaire associée de la rétrospective Gréco aux Galeries Nationales du Grand Palais à Paris avec Guillaume Kienz, qu'on recevra demain. C'est la première grande exposition consacrée en France au Gréco depuis déjà pas mal d'années, il me semble.
Oui, c'est à vrai dire la première grande rétrospective Gréco en France. Il y a eu une première présentation des œuvres de Gréco en 1908, ici même au Grand Palais. Donc c'est assez émouvant de savoir que Gréco revient dans ces murs.
Dans ces salles-là, vous savez
Non, peut-être pas précisément dans ces salles-là, mais dans ce Grand Palais-là. Et puis une autre présentation en 1937, organisée par un marchand et par la Gazette des Beaux-Arts. Mais qui étaient voilà, des présentations plus limitées. Donc c'est vraiment un grand événement aujourd'hui d'avoir une rétrospective Gréco et de rendre hommage à cet immense peintre que nous allons découvrir ensemble.
Il y a beaucoup de tableaux, d'où est-ce qu'ils viennent ?
Alors, beaucoup de tableaux au départ de l'exposition, un prêt magnifique et imposant, qui est un peu la star de l'exposition, qui est l'Assomption de Chicago, puisque le projet d'exposition est né aussi de la possibilité d'avoir ici, à Paris, l'Assomption de Santo Domingo El Antigo, qui a été acquise à Paris en 1904 et donnée ensuite au musée de Chicago par le collectionneur qui l'a acquise. Donc voilà, c'est une grande chance de pouvoir faire revenir l'Assomption de Chicago. Donc beaucoup de très beaux prêts des musées américains, bien sûr des prêts espagnols et on le verra ensemble, des prêts de collections particulières aussi parce qu'il y a encore des œuvres de Gréco dans les collections particulières.
Et donc à cette occasion, Charlotte Chastel-Rousseau, vous publiez Gréco dans la collection Découverte Gallimard et aussi Gréco, journal de l'exposition aux éditions de la Réunion des musées nationaux Grand Palais. Nous sommes également en votre compagnie, Véronique Gérard-Powell, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférence, ou du moins vous l'étiez, car aujourd'hui vous avez pris votre retraite à la Sorbonne. Vous abordez le thème de Gréco et la France dans le catalogue de l'exposition, mais par ailleurs vous êtes une bonne connaisseuse de Gréco. Vous connaissez notamment bien les rapports entre Gréco et Dali, puisque vous avez fait une exposition en tant que commissaire en 2010. C'était au musée Jacquemart-André. On peut déjà en dire un petit mot.
Oui, c'était l'exposition d'un collectionneur privé, Pérez Simón, qui est un grand enthousiaste de la peinture espagnole et qui avait réuni, qui a plusieurs Dalí et qui a deux Gréco. Et donc, nous les avions mis ensemble. Et c'est vrai que la juxtaposition est fascinante parce que Dalí, comme tant d'artistes espagnols, a été fasciné par Gréco. Gréco a fasciné toute une génération d'artistes qui sont ceux qui commencent en 1870 et ça finit en 1950 à peu près.
Donc il est surréaliste, Gréco, avant l'heure ?
Il peut être surréaliste. Il peut être surréaliste dans la liberté de ses couleurs, absolument.
Alors on va visiter cette exposition avec vous deux. On est au tout début de l'exposition, avec derrière nous une petite icône. C'est peut-être le premier tableau connu du Gréco, Charlotte Chastel-Rousseau.
Oui, tout à fait. C'était très important pour nous de commencer l'exposition par ces icônes de Gréco, en particulier ce Saint-Luc peignant la Vierge, pour bien sûr se rappeler d'où est parti Gréco. Gréco, donc peintre d'icônes en Crète, à Héraclion. Quand il a quitté sa Crète natale pour partir à Venise, il avait déjà 25 ans, il était déjà maître, donc ça veut dire qu'il était déjà un artiste accompli. 25 ans au XVIe siècle, c'est pas la prime jeunesse. Et on voit ici donc ces toutes premières œuvres qui sont typiques de cette production vénéto-crétoise, c'est-à-dire des œuvres, une icône. Et vous voyez qu'elle est d'ailleurs présentée comme une icône inclinée. C'est le musée Benaki qui nous a accordé ce très beau prêt et qui nous a demandé spécifiquement de présenter cette œuvre comme une icône, donc sur un plan incliné et pas accroché au mur, parce qu'il ne s'agit pas d'un tableau de chevalet.
Et ça change la manière dont on le regarde ou dont on le voit ?
Ça change la manière dont on le regarde. Il y a aussi un autre aspect de cette peinture qui est très particulier, c'est que vous voyez qu'il n'est pas restauré du tout. Et quand on regarde ce panneau, on voit le panneau, on voit le bois, on voit sa matérialité. C'est aussi de la façon dont on conserve les icônes. On ne les restaure pas, on ne les repeint pas.
Pourquoi pas ?
Parce que ce sont des images qui sont des images sacrées, qui sont des images saintes. On est dans un autre registre. Donc partir de cette icône, c'était important parce que c'est le point de départ de ce trajet très impressionnant, incroyablement inventif et audacieux qu'a entrepris Gréco en quittant sa Crète natale. Un autre point peut-être aussi qui est une introduction très importante pour l'exposition. Cette icône, elle pose d'emblée la question du statut de l'image et en particulier de l'image religieuse puisqu'elle représente Saint-Luc qui peint l'image de la Vierge, un tableau dans le tableau. Et Saint-Luc qui peint miraculeusement l'image de la Vierge, puisque l'ange est là pour lui souffler l'inspiration. Et on a mis en regard de cette icône une sainte Véronique, qui est donc à l'entrée de l'exposition et qui accueille le public, une autre image miraculeuse qui pose à nouveau la question de la fabrique de l'image et du statut de l'artiste.
Alors Véronique Gérard-Powell, c'est difficile de décrire à la radio la peinture. Je vais vous poser la question autrement. Que vous inspire ou qu'est-ce que cette icône vous fait ressentir quand vous la regardez ?
Bien, d'abord, je crois que je partage tout à fait avec Charlotte le sentiment que c'est une œuvre religieuse. Le fait qu'elle soit présentée inclinée, vous le remarquez, fait ressortir la verticalité, en revanche, de la Madone qui est en train de peindre le Gréco, qui est le Saint-Luc, vous voyez, je dis le Gréco, et qui est une image grecque traditionnelle de la Vierge à l'enfant. Nous avons également une vue de tout l'atelier du chevalet avec les peintures, les couleurs, qui nous met dans l'atmosphère du jeune Gréco de ce moment-là. Et on retrouve quand même dans les éléments, dans les plis, dans le travail des plis, la tradition byzantine.
Parce que c'est quand même peindre un peintre, en effet. Donc il y a presque de l'autoportrait ici.
Il y a presque de l'autoportrait. Et d'ailleurs, il aimera beaucoup peindre Saint-Luc. Mais il y a des éléments qui mélangent une tradition byzantine, notamment dans le travail le drôle de travail de la perspective, et déjà quelques éléments dans le travail du corps de l'ange notamment, qui montrent une connaissance par la gravure de l'art vénitien.
Alors, est-ce que le Gréco est déjà Gréco quand on regarde ce tableau, ou est-ce qu'il est simplement un maître dans un domaine qui est partagé par beaucoup d'autres peintres ?
Pour moi, il n'est pas encore Gréco. D'ailleurs, à ce moment-là, il est Théotokopoulos et il est effectivement un maître dans un domaine partagé, vous le dites très justement. Et vraiment, la mue artistique de Gréco, elle passe par le séjour à Venise, le séjour à Rome et puis... l'épanouissement et la consécration à Tolède. Et c'est seulement à Tolède que Gréco devient vraiment Gréco. Donc là, on est encore face à Théotokopoulos et avec toutes ses ambitions qu'il va vraiment mener à bien en se mettant en chemin vers Venise, capitale artistique du monde oriental. Et donc oui, pour moi, on n'est pas encore face à Gréco, clairement.
Alors,
Est-ce que vous pourriez nous montrer le premier tableau, la première étape du Gréco tel que il va devenir?
Donc l'exposition, elle essaie de mettre en valeur cette mue artistique, et il y a une pierre angulaire de cette transformation qui est ce petit triptyque portatif, qui est un objet extraordinaire, le triptyque de Modène. Il est difficile à décrire, à nouveau, c'est un petit autel de dévotion portatif, donc qu'on peut plier et déplier, qu'on peut ouvrir et refermer, peint sur bois, recto verso, avec différentes scènes. Et là, vraiment, donc c'est un tableau qui a un objet, puisque c'est pas vraiment un tableau, un petit autel portatif qui a permis de comprendre la genèse de Gréco. Il était dans les réserves du musée de Modène, et dans les années 1930, il a été tout d'un coup redécouvert. La signature de Gréco, il porte en fait la signature, une signature de Gréco, fait de la main de Dominique, de Domenico Theotokopoulos, et il c'est vraiment une œuvre hybride, une œuvre qui montre Gréco lapin. À Venise, et il s'est mis, il a vraiment commencé à assimiler la leçon vénitienne, la leçon du coloriticien, la leçon aussi italienne de manière plus générale, la perspective, le dessin. Et donc c'est vraiment une œuvre hybride, et c'est à partir de cette œuvre très, très étonnante et donc très émouvante aussi qu'on peut retracer le début de la carrière de Gréco. C'est en comprenant que cette œuvre était de Gréco que d'autres tableaux, comme ceux qui nous entourent, ont été attribués à Gréco avec certitude, et que ce corpus des débuts de Gréco a été construit par les historiens de l'art. Donc c'est vraiment une pierre angulaire. Peut-être que Véronique voudrait en dire quelque chose.
Parce que, avant de vous laisser parler, c'est vrai que on voit très bien en le regardant que on a là du Gréco, alors que avec l'icône précédente, ça n'était pas aussi simple. Mais quel mot pourrait-on mettre justement sur ce qui fait qu'on est là dans quelque chose d'extrêmement spécifique? Est-ce que c'est un sentiment que procure ce tableau, qui est un sentiment que d'autres peintres ne procurent pas à l'époque? Est-ce que c'est, par exemple, une impression d'être déjà dans quelque chose de l'ordre du romantisme, même si c'est anachronique? Quel mot vous pourriez essayer de mettre?
Je pense que c'est pas si simple, pardon. C'est pas un sentiment, parce qu'on n'est pas encore tout à fait dans le grand Gréco. On est encore un peu avant. Pour moi, on est déjà d'ailleurs dans un format qui est encore un format assez miniaturiste. Hein, ce triptyque, quand on le voit reproduit, il paraît très grand. En fait, il est vraiment petit. C'est un objet portatif. Pour moi, c'est plutôt l'assimilation, l'imprégnation d'une nouvelle manière de peindre. Et pour moi, ce qui annonce déjà ce que sera Gréco, c'est la couleur. Alors c'est paradoxal parce que, voilà, les couleurs. Alors c'est paradoxal parce que devant nous, nous avons la scène du Mont Sinaï qui est donc inspirée de la gravure, inspirée notamment, il y a beaucoup de gravures qui ont inspiré ses compositions, des grands maîtres de la Renaissance, je pense à Dürer en particulier. Et c'est vrai que cette scène-là, ce paysage en particulier, très dramatique, qui fait penser aux cieux de Gréco plus tard, qui seront très dramatiques comme ça. Ce paysage-là, il est presque monochrome. En fait, pas tout à fait, c'est beaucoup plus subtil que ça, mais c'est un camailleux de gris, de blanc, de brun. Mais les scènes, donc l'Annonciation, Adam et Ève, la Nativité, ces autres scènes, elles ont une palette déjà inspirée, enfin, imprégnée de Venise et du colorisme de Titien, de Tintoret, et elles ont déjà ces jaunes, ces roses, ces rouges qui sont éclatants. Donc voilà, mais on n'est pas encore tout à fait, Gréco n'a pas encore fait sa mue complète, il n'est pas allé encore à Rome. Voilà, c'est pas une question de sentiment, c'est plutôt une œuvre qui permet de comprendre ce qui s'est produit et cette manière dont Gréco s'est mis en chemin et a vraiment changé sa manière de travailler.
Véronique Gérard-Powell.
Alors moi, exactement comme Charlotte, je pense que ici il y a l'idée de la couleur, mais je garderai les noirs. Je garderai ce nocturne parce qu'on retrouve dans l'œuvre de Gréco, nous le verrons plus loin, une fascination pour le noir aussi. Et il y a quelque chose de très étonnant dans ce triptyque qui est fait sur un bois qui vient probablement de Crète, hein, mais quelque chose de très étonnant dans le contraste entre cette vision du Mont Sinaï, comme les pèlerins arrivant comme une fin de nuit ici, et de l'autre côté, il y a une image du paradis, c'est l'histoire du chevalier chrétien, et nous sommes là déjà dans une des gloires célestes, pleines de lumière, que Gréco aime à montrer. J'ajouterai un mot, naturalisme, qui nous semble pas le mot de Gréco, mais qui est sa recherche de la nature. Et si vous regardez le corps d'Adam et le corps d'Ève, hein, ce sont maintenant des corps réels, hein, inspiré de Dürer.
Donc vous diriez aussi, comme Charlotte Chastel-Rousseau, qu'on est là face à une œuvre qui est presque italienne.
C'est une œuvre entre les deux. C'est une œuvre, comme Charlotte l'a dit, c'est une œuvre absolument clé, qui a été clé pour reconstituer les débuts, surtout pour montrer qu'il y avait eu avant un passé grec, hein, de Gréco. Et évidemment, quand on regarde l'Annonciation, par exemple, c'est une œuvre qui a déjà un climat vénitien complet dans les gravures également.
Alors on peut peut-être raconter un petit peu quand à Rome le Gréco va s'opposer à Michel-Ange et re-raconter un petit peu cette histoire qu'on a déjà évoquée, Véronique Gérard-Powell, mais ça peut nous permettre aussi de comprendre un petit peu mieux la peinture du Gréco et sa conception de la peinture.
Je crois que la question de Michel-Ange est une question complexe. Dans cette exposition, il y a un merveilleux tableau, La Pietà, qui montre la fascination de Gréco pour Michel-Ange.
Donc, pourtant, lui disait justement qu'il aurait pu refaire Michel-Ange aussi bien.
C'est un arrogant Gréco. Hein. C'est ce que disent beaucoup de jeunes personnes ou de personnes qui veulent prouver qui ils sont. Hein. Et dans le fond, sa fascination pour la sculpture, sa fascination pour les corps, elle tient énormément à Gréco, à Michel-Ange, plus qu'à Raphaël.
Charlotte Chastel-Rousseau sur cette même question.
Oui, pour poursuivre ce que disait Véronique, le rapport à Michel-Ange, c'est un rapport en fait très fort. Gréco avait indubitablement une immense dette envers Michel-Ange qu'il a beaucoup, beaucoup observé, beaucoup étudié dans son dessin, dans sa manière de construire les anatomies, dans ses audaces de raccourci, dans la qualité plastique de sa peinture. Alors il a eu des mots assez vachards hein, vis-à-vis de Michel-Ange, et on connaît ces mots parce qu'il les a annotés dans les livres de sa bibliothèque. Il a prétendu que Michel-Ange était un mauvais peintre, qu'il ne savait pas peindre les cheveux. Il a aussi une citation assez amusante avec le recul où il dit que Michel-Ange ne sait rien commencer et que Léonard ne sait rien finir. Donc vous voyez, Gréco avait aussi cette arrogance et ses piques vis-à-vis des grands maîtres à qui il a eu de cesse de rendre hommage, on le verra dans l'exposition. Donc un rapport ambigu, de grande admiration et aussi le besoin de faire sa place.
Il faut dire que lui-même n'a pas été épargné non plus par ses contemporains. On disait de lui que ses couleurs étaient désunies. On parlait de cruelles taches pour qualifier ses tableaux.
Oui, alors Gréco, plus que ses contemporains, je dirais que c'est peut-être ce sont aussi ses suiveurs qui... Il y a eu un moment où l'art de Gréco n'a plus été très à la mode, où il a été incompris, notamment au XVIIe siècle et au XVIIIe. Il était toujours visible à Tolède notamment, dans les églises. Mais c'est vrai qu'il a été oublié. Il a été finalement un moment passé de mode parce qu'il a, je pense qu'il n'a pas du tout pris le tournant du caravagisme, de cette grande révolution du début du XVIIe siècle. Il y a des points communs, bien sûr, entre l'art de Caravage et l'art de Gréco qui sont finalement morts à 4 ans d'écart seulement. Et on peut tirer des comparaisons et des différences entre ces deux immenses génies de la peinture. Mais oui, clairement, il y a eu, dans la réputation de Gréco, progressivement, mais Véronique en parlera encore mieux que moi parce que c'est un de ses grands sujets de recherche, progressivement, la réception de Gréco est une histoire complexe. Effectivement, il a été oublié, il a été à un moment même assez méprisé et puis redécouvert au XIXe siècle et au XXe siècle avec passion et avec fièvre.
Je voudrais juste ajouter quelque chose, ce qui est le mot maniérisme, parce que Gréco arrive à Rome au moment de la fin du maniérisme.
Vous pouvez nous redéfinir le maniérisme en peinture.
Le maniérisme, c'est cette époque qui commence vers les années 1520 et qui est assez courte, mais où on cherche la beauté loin du naturalisme, avec une recherche personnelle de couleurs qui deviennent très souvent des couleurs âcres, vives. On fait une recherche aussi, on se moque de la perspective. Vous voyez, donc c'est un moment de travail des artistes sur leur propre art qui mène à des figures allongées, à une recherche de l'élégance pour l'élégance, à des couleurs acides. Et c'est contre ça, évidemment, que toute la période de Caravage va exister. Gréco a quitté Rome, à un moment où il y a encore des traces très importantes de maniérisme avec des peintres comme Salviati, hein, et il apporte ça en Espagne.
Sur la question de la couleur qui semble définir vraiment l'art du Gréco, est-ce que sa couleur est très spécifique parmi les peintres de son temps? Est-ce qu'il a une technique particulière qui lui permet d'avoir ces couleurs si franches, si vives? Ou est-ce que c'est tout de même une utilisation de la couleur assez partagée à l'époque?
Moi, je dirais que, par exemple, quand nous regardons l'Annonciation ici, nous sommes dans les couleurs vénitiennes de l'époque, hein, avec des couleurs encore chaudes, hein, de l'époque. Ensuite, je ne m'y connais pas assez, Charlotte, à vous, hein, pour
définir... Parce qu'il y a aussi des bleus qui sont très profonds, mais aussi assez froids.
Il y a des verts très froids, des bleus très froids, très proches, des choses aussi très proches de la nature. Et je crois qu'on n'a pas encore beaucoup travaillé assez sur la palette, hein, de Gréco. Je ne sais pas si Charlotte a des idées là-dessus.
Qu'est-ce que vous diriez sur la couleur?
Non, plusieurs idées. D'abord, oui, tout de suite, la leçon vénitienne, l'admiration de Gréco pour les Vénitiens en général, qui d'ailleurs explique aussi pourquoi il a souvent pris parti contre les Toscans, contre les Florentins, contre Vasari, que par ailleurs il lisait, donc il devait quand même beaucoup l'intéresser, c'est toute la complexité du personnage. Donc une immense admiration pour ce qu'il apprend de Titien, Titien qu'il a probablement croisé, on peut imaginer quand il arrive.
Est-ce qu'il a fait partie de son atelier, selon vous?
Alors, on ne peut pas le savoir, mais ce qu'on sait, c'est qu'au moment où Giulio Clovio, le miniaturiste croate, ami et un temps protecteur de Gréco, recommande Gréco au cardinal Farnèse, il le présente comme disciple de Titien. Donc, pour parler familièrement, c'est une manière de truquer légèrement le CV du jeune Gréco, ou est-ce que c'est réel? Ça, on ne le sait pas, mais ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, Gréco a une admiration et une connaissance de la peinture de Titien, qui vraiment imprègne toute sa nouvelle manière de peindre. Ensuite, la couleur de Gréco, c'est un vrai sujet. Il y a beaucoup de recherches à mener encore sur sa palette. Récemment, nous discutions avec des collègues justement du musée de Benaki qui nous parlaient des recherches de pigments qu'ils ont fait sur les bleus du ciel, les bleus du manteau de la Vierge, que vous ne voyez pas aujourd'hui. Parce qu'en vieillissant, ils ont viré, ils sont devenus donc brun jaune, avec la question de savoir est-ce que c'est de l'azurite, est-ce que c'est du smalt. Donc il y a eu des premières analyses. Voilà, donc il y a encore un travail, d'ailleurs qui est en cours aussi au Prado, un travail vraiment d'analyse plus scientifique, hein, de la manière de peindre de Gréco. Mais pour répondre peut-être de manière aussi plus personnelle, les couleurs de Gréco, oui, c'est Venise, mais c'est aussi un talent immense de coloriste. C'est un peintre, et on le verra plus loin, qui a eu des audaces et en même temps une subtilité incroyable dans sa manière de choisir et d'associer les couleurs. Et ça, c'est vraiment le talent d'un immense artiste.
On pourrait aller voir justement un tableau que vous choisirez pour nous parler de ça.
Commencer tout de suite, parce qu'il y aurait beaucoup de tableaux pour parler de ça, mais prenons déjà ici ces deux petits ricordi, ces deux petits souvenirs peints sur bois par Gréco lui-même, d'après ses grandes compositions qui ont fait son succès à Tolède.
Donc ce sont des reproductions en miniature de ses œuvres les plus célèbres?
Exactement, ce sont des reproductions en miniature peinte sur bois, donc le bois, hein, ce sont les derniers petits bois peints par Gréco dans la tradition des icônes sur bois, mais cette fois-là avec une autre technique, bien sûr, et ce sont donc des petits souvenirs de deux des très grands tableaux qui ont fait son succès à Tolède, l'Expolio, le Christ dépouillé de ses vêtements de la cathédrale de Tolède, et puis le Songe de Philippe II, dit aussi l'Allégorie du nom de Jésus, qu'on verra plus loin présenté dans l'exposition, peint pour le monastère de l'Escorial. Et vous voyez ici déjà, au tout début donc après l'arrivée à Tolède, vers 1577, donc ces tableaux sont postérieurs, donc mettons vers 1580, vous voyez déjà l'audace de la palette de Gréco, en particulier la façon dont il associe les jaunes, les rouges, les roses, la façon dont il fait vibrer aussi les couleurs dans la lumière, qui est évidemment un de ses plus grands talents.
Oui. Véronique Gérard-Powell.
Ici, vous avez ce que nous parlions des couleurs maniéristes. Ici, dans le tableau de l'Expolio, avec les bleus, les jaunes, les verts, violent, brillant, tiré à l'extrême. Là, nous sommes dans le registre qu'on pourrait dire maniériste. Tandis que ici, nous sommes dans des lumières vénitiennes. Donc, et des lumières plus chaudes. Il mélange les deux. Ça, c'est un des plus beaux morceaux d'exposition. Ce rapprochement de ces deux petits panneaux ensemble est formidable pour voir à la fois son imagination, qui apparaît très fort dans ce qu'on appelle en France le songe de Philippe II, et en même temps, ici, son audace dans la rupture de l'espace, dans tous ces éléments-là.
Alors je vous propose d'aller dans la salle suivante, qui est la salle des portraits. Parlez-nous un peu de ces portraits, Charlotte Chastel-Rousseau. Il y en a toute une salle. On pourrait dire aussi un mot sur l'accrochage. Il a été choisi de les accrocher sur des murs blancs, ce qui permet de faire ressortir, je pense, la modernité du Gréco et puis aussi justement les couleurs, si vous voulez nous en dire un mot. Et puis après, voilà, sur la profusion de ces portraits et ce qu'ils constituent dans la carrière du Gréco.
Oui, alors un mot d'abord sur la scénographie de Véronique Dollfuss et le choix du blanc. Le choix du blanc et qui va avec, donc vous voyez, on est dans l'exposition avec ce parquet clair, une scénographie qui est délibérément dessinée mais très épurée. Et c'est vrai que c'était important pour nous de présenter Gréco sur un fond blanc. Alors plusieurs raisons. D'abord, comme vous le disiez, laisser la couleur à Gréco et s'effacer d'une certaine façon. On ne présente pas Gréco tout à fait comme on présenterait par exemple Tintoret. Parler aussi du
Pourquoi,
fait...
Alors
justement, choisis Tintoret parce que vous voyez, ils sont deux immenses artistes et deux très grands coloristes, presque de la même génération, pas tout à fait. Gréco a admiré beaucoup Tintoret et a appris beaucoup de lui. Parce que Gréco a été redécouvert par les modernes et donc c'est intéressant de présenter Gréco à travers ce prisme de la modernité, comme on accroche une exposition Bacon en ce moment qui est sur fond blanc à Paris, comme on accrocherait pourquoi pas une exposition Picasso bleu et rose, vous voyez. Donc replacer ce regard de la modernité. Il y a une troisième raison, c'est que les églises de Tolède sont blanches et donc c'était pas totalement anachronique aussi de choisir le blanc. Et nous, on est très reconnaissant à Véronique Dollfuss d'avoir su choisir ce blanc, qui est un blanc qui est chaud, en fait, qui fait une très belle lumière sur les tableaux. C'est vrai que ça permet de mettre en valeur la lumière. On a eu un très beau travail de l'éclairagiste aussi, qui permet vraiment de faire ressortir la peinture de Gréco.
Et notamment ses portraits, donc dans cette salle qui est un petit peu la salle centrale de l'exposition. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire ?
Alors le choix avec Guillaume Kintz a été de... Nous avons choisi, après donc cette première partie de l'exposition qui est chronologique, on rentre ensuite dans le cœur de l'exposition qui sont des accrochages thématiques. Et on peut à chaque fois parcourir toute la carrière de Gréco à travers un thème, un motif, une variation. Ici, vous êtes dans la salle des portraits. C'est vrai qu'elle a quelque chose d'assez saisissant avec tous ces portraits d'hommes qui nous scrutent. En particulier l'étonnant cardinal de Guevara qui nous accueille.
Il y a très peu de femmes de manière générale représentées par Gréco.
Alors il y a beaucoup de femmes représentées dans la peinture, beaucoup de Madeleine, beaucoup de Vierges, beaucoup de Saintes, pas beaucoup de portraits de femmes, effectivement. Et là c'est une salle très masculine, mais avec donc des portraits des premiers portraits italiens, dans la tradition, on parlait de Tintoret justement, dans la tradition vénitienne, des portraits peints à Rome. À Rome, pour vivre, Gréco fait donc des petits panneaux de dévotion. Il ne maîtrise pas l'art de la fresque, donc il n'a pas de commande de grands décors. Mais il peut peindre donc des portraits pour un portrait d'un architecte, portrait d'un érudit. Donc il peint des portraits sur toile. Et cette pratique du portrait, il va la garder toute sa vie. Gréco, c'est un immense portraitiste. Il a une capacité incroyable à rendre la psychologie de ses modèles. C'est un des plus grands portraitistes de l'histoire de l'art. Donc c'était très important pour nous de commencer par cette salle des portraits.
Est-ce que ce sont des portraits ressemblants dont les commanditaires pouvaient être satisfaits ?
Oui, très certainement. Très certainement, il cherchait à... Et Véronique, tout à l'heure, Véronique Gérard-Powell parlait du goût pour l'imitation de la nature. Et très, très certainement, en peignant des portraits, il cherchait à approcher la physionomie de ces portraits, de ces modèles. Il y avait aussi l'idée de rendre la psychologie... Alors, ça peut être l'intelligence et la vivacité, comme dans le cas de cet étonnant portrait du cardinal avec ses lunettes, hein, les lunettes qui sont l'accessoire de l'homme de science. À ce moment-là, probablement, le cardinal était à Séville.
Il a l'air un peu inquiet quand même, le cardinal, quand il vous regarde comme ça.
Alors, je crois, je vous soupçonne, de projeter une vision que vous avez aussi de l'inquisition espagnole, puisqu'on nous sommes quand même face à un cardinal grand inquisiteur. Mais pour moi, les lunettes, ce ne sont pas forcément des lunettes scrutatrices et brutales de l'inquisition. Pour moi, ce sont aussi les lunettes d'un homme qu'on sait, qui est un homme assez libéral, un homme qui était clairement un érudit et en tout cas un homme passionné d'optique, de science, donc c'est plutôt un accessoire si vous voulez. Et derrière les lunettes, il y a un regard quand même sacrément intelligent, à mon sens.
Véronique Gérard-Powell, l'intelligence de ce cardinal, vous y êtes sensible ?
Ah, je suis très sensible à ce grand cardinal et je trouve ce portrait merveilleux. Ce qui me frappe beaucoup dans cette salle, c'est justement le passage des portraits encore inspirés de Venise, avec souvent des tableaux, des portraits à mi-corps. Et tout d'un coup, nous voyons, il y a un excellent choix ici de trois tableaux qui nous montrent la liberté de la mise en page qu'a Greco par rapport à ses contemporains. Parce qu'il a les modèles vénitiens dont a parlé Charlotte, mais il a aussi, une fois en Espagne, la tradition du grand portrait espagnol avec des peintres comme Sánchez Coello. Et donc, nous retrouvons de l'Espagne ce goût du travail sur fond sombre, mais nous voyons pour la première fois non seulement cette expressivité fantastique, cette façon de rentrer dans l'esprit de quelqu'un. Et il y a ici très bien mis en valeur le petit tableau du Louvre, le portrait du grammairien Covarrubias, et qui est un super portrait de vieillesse. C'est un vieillard serein, intelligent, et on est en relation directe avec le personnage. Dans le portrait du grand prêcheur, ici, de l'ordre des Trinitaires, Hortensio Feliz Paravicino, tableau qui était aussi venu en France d'ailleurs, vous remarquez ici l'espèce de liberté de la pose de l'homme installé dans son fauteuil avec ses livres et qui jette juste un œil sur le peintre. Ça, c'est une mise en page terriblement moderne que Goya regardera après.
Ouais. Alors, ce cardinal a donc des lunettes, car il lit beaucoup, mais le Greco aussi était quelqu'un de très érudit et qui, on le sait par sa bibliothèque, connaissait les écrivains de l'Antiquité, les écrivains de son temps. C'est important de le savoir, ça ?
C'est important parce que ici, aujourd'hui, nous avons une vision de Greco qui est la vision principale, la vision de Greco peintre, mais il avait aussi des velléités d'architecture. On le voit avec le tabernacle, il a fait des sculptures. C'était un homme qui... très érudit, je dirais pas très érudit, mais dans le contexte d'une Espagne très érudite. Essayons de remettre Greco aussi dans le contexte d'une Espagne avec une longue tradition universitaire, avec une école de mathématiques qui dépend du palais royal. Vous voyez, il fallait qu'il tienne le choc, et donc, évidemment, il a lu Vitruve, évidemment, il a lu Vasari. Il les a annotés et la grande chance a été de retrouver sur le marché et à la Bibliothèque nationale de Madrid ces exemplaires annotés.
Charlotte Chastel-Rousseau.
Oui, une autre idée qui était importante pour nous quand on parle de Greco érudit, Greco intellectuel, c'est aussi l'idée que Greco est un homme de la Renaissance. Et c'est vrai. Et aller battre en brèche cette idée d'un Greco fou, illuminé, extravagant, l'histoire de tout ce qu'on a pu projeter sur Greco est passionnante, mais c'est important aujourd'hui de bien le remettre dans un contexte intellectuel, celui de la Renaissance et de cette passion des humanistes pour les écrits anciens, pour les traités.
Donc pourquoi opposer le fait qu'on ait dit qu'il était schizoïde, fou, etc., et le fait qu'il appartienne à la Renaissance ?
Non, mais ça ne s'oppose pas forcément, vous avez raison, mais le fait de montrer qu'il était, que c'était un homme qui lisait beaucoup, le fait de montrer qu'il avait une recherche qui était tout à fait construite et qu'il avait aussi une vision très intellectuelle de son art, il s'est beaucoup battu en fait pour affirmer le statut de l'artiste, l'artiste qui n'est pas un artisan, l'artiste qui est avant tout la peinture et causa mentale, comme disait Léonard, que la peinture avait une très haute idée de ce qu'est l'art, la peinture, et de le défendre, de défendre les idées. Et donc, c'est important pour ça de comprendre que Gréco était aussi quelqu'un qui est un lettré, d'une certaine façon.
On a dit, alors vous allez être, j'imagine, aller en contre, que c'était aussi son astigmatisme qui lui avait donné l'envie de peindre des choses, des formes comme ça très allongées, très étranges, et jamais vues jusque-là. J'imagine que vous n'êtes pas d'accord avec cette vision des choses.
Non, je suis pas d'accord et j'espère que l'exposition permettra de se faire une idée totalement autre de Gréco. Mais je dois dire que je trouve très intéressant, c'est pour ça que j'y ai consacré le journal de l'exposition, je trouve très intéressant de voir tout ce qu'on a pu projeter sur Gréco. Alors l'astigmatisme, c'est une explication de son audace, de l'audace de ses couleurs et l'audace de ses formes. Il y a l'idée qu'il était fou et puis il y a eu beaucoup, beaucoup encore d'autres fantasmes. Et il y a une jolie phrase dans la grande biographie qui fait référence de Fernando Marias, une jolie phrase de Fernando Marias qui explique qu'après tout, chacun peut choisir son Gréco. Ça n'a pas beaucoup d'importance que chacun le choisisse. Simplement, il y a la nécessité de se rendre compte qu'il suscite en nous des fantasmes, des projections, etc. Et de se rendre compte que ça ne correspond pas à une réalité historique. À partir du moment où on a ce recul, pourquoi pas imaginer tout ce qu'on veut sur Gréco. Mais le rôle d'un commissaire d'exposition aussi, c'est d'essayer de replacer l'artiste dans sa vérité historique autant qu'on puisse, en ayant conscience de tout ce que ça suscite aujourd'hui, dans nos yeux aujourd'hui du XXIe siècle.
Véronique Gérard-Poil, je vous ai entendu grogner un petit peu.
Oui, non, à cette idée d'astigmatisme. Je crois que Charlotte l'a très bien expliqué, ça repose au départ sur un malentendu. Ça repose au départ sur un intellectuel espagnol, Cean Bermúdez, un grand néoclassique qui rejetait le maniérisme sans le connaître. Ça ne pouvait pas correspondre. Gréco a été le plus audacieux des peintres de la Renaissance. Ça ne pouvait pas correspondre à l'idée qu'un néoclassique avait d'un art où Raphaël était le roi. Ensuite, quand sont arrivés les premiers Gréco avec l'exposition de la galerie Louis-Philippe, qu'ont fait les journalistes avant de voir les tableaux? Ils sont allés chercher les petites choses qu'il y avait sur Gréco, ils ont repéré Cean, et ils l'ont tous, on suit très bien qui est le premier, et quelqu'un qui était très embêté avec ça, c'était Théophile Gautier. Parce que Théophile Gautier...
Il a un peu repris à son compte quand même, cette idée.
Oui, mais en même temps, il s'en tire par une pirouette. En disant, c'est à propos du tableau qui maintenant est mis en doute, de la jeune femme, il dit, on dit que ce peintre est fou, donc il essaye de trouver pourquoi, et il trouve comme justification, ce qui est quand même abracadabrant, qu'il imagine que cet homme n'aurait pas voulu être le père de la jeune femme qu'il est en train de peindre, parce qu'il aurait plutôt voulu être l'amant. Voyez, et le reste de l'œuvre de Théophile,
c'est un romancier, hein.
Exactement. Et le reste de l'œuvre de Théophile Gautier chante Gréco, chante Gréco. Mais après, on a adoré faire de Gréco ce qu'il n'était pas.
Alors on est là en face de tableaux immenses qui sont présentés de manière très spectaculaire, Charlotte Chastel-Rousseau. Là on est vraiment avec le Gréco, le grand Gréco, tel qu'on le connaît, tel qu'on se le représente en général.
Oui, tout à fait. Alors on est devant la grande Assomption de Chicago, peinte par Gréco pour Santo Domingo el Antiguo, grande commande de 1577-1579 qui permet à Gréco, donc il vient d'arriver à Tolède, et là il permet vraiment d'exprimer tout son art. Ce qui est, alors vous dites on est devant le grand Gréco, on est encore devant le Gréco un peu vénitien. On voit bien la leçon de Titien ici dans les couleurs, dans les constructions, mais déjà effectivement un format monumental. Et je voulais dire que c'était très important, pour l'exposition, d'avoir ce prêt généreux de Chicago et que ce tableau puisse voyager, revenir en Europe, au bout d'un siècle. On a aussi voulu accrocher d'autres œuvres qui viennent de Santo Domingo à l'Antigo, notamment cette sculpture ici, cette sainte face portée par des anges, qui n'a pas été exécutée par Gréco, mais qui a été conçue par Gréco et qui était au-dessus de l'Assomption.
Lui-même n'est pas sculpteur du tout ou quasiment pas.
Alors si, il a été sculpteur. Un peu plus tard, nous verrons une sculpture qui a été faite de sa main.
Il y en a beaucoup qu'on connaît, ou une douzaine.
Ouais. Demi-douzaine.
Ah, une demi-douzaine, donc c'est peu quand même. Ouais.
Oui, on connaît peu de sculptures de la main de Gréco.
Non, je voulais juste rajouter ce que disait Charlotte sur ce retable, que ça a été aussi une révolution en Espagne, parce que c'est l'Espagne avait une grande tradition d'énormes retables, mais des retables sculptés. Et la première tentative a été à l'Escorial de faire un retable peint, avec des panneaux peints. Mais le premier qui a inventé le grand tableau central dans la tradition italienne, c'est Gréco, avec cette œuvre que nous avons sous les yeux. Donc elle a représenté aussi une révolution en Espagne à ce moment-là.
Je propose de poursuivre vers les salles qui nous parlent aussi de l'atelier, je crois, du Gréco et de la manière dont il travaillait.
Un peu plus loin, on va parler de l'atelier de Gréco, mais c'est vrai que l'exposition ne porte pas sur l'atelier, mais en revanche sur sa manière de travailler, cette manière très particulière de travailler avec, en inventant un motif et en y revenant, invention, variation, sans cesse revenir sur le motif, retravailler les mêmes scènes. Donc on a essayé, dans un accrochage qu'on espère dynamique, de mettre plusieurs variations de Gréco, de la main même du Gréco, pas de son atelier, de la main même du Gréco, du même motif. Donc des Madeleines, l'Agonie au jardin, des Saint-François, vous voyez, des séries comme ça. Et c'est vrai que ce travail par série, ce travail par réinvention, a beaucoup intéressé les avant-gardes du début du XXe siècle. On pense, je ne sais pas, aux meules de Van Gogh, on pense aux cathédrales, à la cathédrale de Rouen, de Monet. On pense, voilà, à tous ces artistes qui ont travaillé comme ça en revenant sans cesse sur le motif. Et c'est vrai que Gréco, en ce sens, a été un prophète de la modernité en travaillant ainsi par série. C'est ce qu'on a essayé de mettre en valeur avec cet accrochage thématique qui est vraiment au cœur de l'exposition.
Il travaillait avec son fils, comme je crois le Titien travaillait aussi avec des membres de sa famille. C'est important ça de le savoir ou pas ?
Alors oui, c'est important. Il y a un peu plus loin dans l'exposition, on le verra tout à l'heure, un très joli portrait qui est à Séville, portrait du fils de Gréco par Gréco, de Jorge Emmanuel. Et donc c'est important de le savoir. Jorge Emmanuel à un moment a un rôle très important dans l'atelier. Au moment où Gréco, vieillissant, a sans doute aussi des difficultés à faire face à toutes les commandes qu'il reçoit. Et clairement, d'ailleurs, Gréco peint son fils en peintre, alors qu'en fait, Jorge Emmanuel était avant tout un architecte. Et après la mort de Gréco, Jorge Emmanuel va finir les commandes, faire l'inventaire après décès de son atelier, s'occuper de tout ce qu'il fallait. Et puis, il va continuer sa carrière d'architecte et pas de peintre. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions pour savoir ce qu'on peut donner à la main du fils Jorge Emmanuel. Et finalement, on lui donne plus grand chose, plus grand chose. Donc, il a été un personnage important dans l'atelier, mais peut-être pas, certainement pas un peintre important.
Véronique Gérard-Powell, je crois que vous avez envie de revenir sur un tableau devant lequel on est passé vite.
Je voulais juste vous expliquer, vous rappeler où se trouvaient les tableaux dont Charlotte est en train de parler. Et tout ce qu'elle a dit sur Jorge Emmanuel est très important. Bon, il y a en ce moment, d'ailleurs récemment, une publication qui montre, tente à prouver que plusieurs des tableaux sont bien de la main de Jorge Emmanuel. On a retrouvé sa signature, vous voyez. Et on est dans un contexte aussi, ce que Charlotte expliquait avec les séries, qui s'explique de façon pratique également. C'est un peintre à la mode dans une ville où il y a beaucoup d'érudits, d'intellectuels qui souhaitent commander ses œuvres. Donc, on lui recommande la même chose tout le temps et il approfondit et change.
Je propose qu'on aille voir le Saint-Martin partageant son manteau, qui est aussi l'un des chefs-d'œuvre de cette exposition. Véronique Gérard-Powell.
C'est un tableau merveilleux. C'est un tableau merveilleux.
Il faut le décrire déjà.
Et alors, nous avons devant nous un de ces tableaux d'hôtel où Greco utilise le paysage de Tolède en arrière-plan. Il place en général le paysage très en bas de la composition pour détacher sur un ciel mouvementé la figure d'un jeune chevalier en parfait costume de la Renaissance, sur un cheval blanc qui inspirera probablement Rubens un peu plus tard, sur un cheval blanc et qui coupe la moitié de son manteau vert, si l'armée romaine était en vert, pour protéger le jeune mendiant. Ce tableau, alors c'est la seule fois où je vais parler un tout petit peu de l'historique de ce tableau. Ce tableau est parti d'Espagne dans des conditions très tristes. Il était dans une chapelle qui est encore une chapelle privée, qui avait 5 retables de Greco, il en reste 3 maintenant. Et après la publication par un historien de l'art français de cette chapelle, le tableau a été aussitôt acheté par 2 marchands français, avec la participation de cet historien de l'art, et il est parti via la France pour les États-Unis. Et là, le démantèlement a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. En Espagne, le Parlement, le Sénat, tout le monde a hurlé contre ces spoliations du patrimoine. Mmh. Si on revient à notre tableau, il est quand même un tableau magique dans cette espèce de sens de la réalité qu'il y a avec le paysage, mais en même temps, regardez le tout petit visage très pensif du jeune Saint-Martin, et c'est un chevalier bien plus qu'un soldat de l'armée romaine.
Qu'est-ce qui se passe pour vous dans ce tableau ?
Qu'est-ce qui se passe pour moi dans ce tableau ? Charlotte, qu'est-ce qui se passe pour vous dans ce tableau ?
Alors moi, il se passe beaucoup de choses devant ce tableau, comme Véronique, j'admire et j'aime énormément. Je suis d'abord très très touchée par le geste, les deux mains, la main du mendiant et la main de Saint-Martin qui se touchent presque. Et par l'humilité en fait de ce Martin qui est là et plus présenté comme un prince que comme un... que comme un soldat.
Presque la tristesse aussi.
Oui, aussi une humilité, une tristesse, quelque chose de très intériorisé qu'on retrouve parfois chez certains personnages de Greco. Donc il y a une sorte de tendresse aussi, quelque chose de très délicat dans ce personnage. Et puis l'élégance magnifique de ce cheval blanc, un pur sang arabe, magnifique, qui se détache dans une lumière extraordinaire. Les cieux de Greco, on pourrait en parler pendant des heures. Ils ont d'ailleurs inspiré des très belles lignes au XXe siècle à de nombreux historiens de l'art, à des poètes. Je pense aux lignes d'Elifor, qui est un historien de l'art un peu passé de mode, mais qui a de très jolies lignes sur Greco. Et c'est vrai que là, le ciel est merveilleux, avec entre les jambes du cheval, au-dessus de Tolède, un ciel d'orage qui progressivement se lève.
C'est pas la nuit aussi dans ce tableau, selon vous ?
C'est très difficile. Moi, j'ai l'impression. En fait, c'est une question qu'on m'a déjà posée et dans cette exposition même. Et pour moi, c'est pas vraiment la nuit. Pour moi, c'est une lumière d'orage. Parce que rien n'indique. En tout cas, la scène est assez fidèle à ce qui est écrit dans les Évangiles. Mais il n'est pas question que ce soit la nuit. Il est question qu'on soit à la porte d'une ville. C'est ce qui est écrit dans le texte de l'Évangile. Et là, de manière très amusante et juste et intéressante, Greco a choisi d'être à la porte de Tolède. Et d'ailleurs, il a vêtu son Saint-Martin d'une armure espagnole. Il est donc vêtu comme un homme du XVIe siècle, à la porte de la ville qui a su reconnaître le talent de Greco. Donc Tolède est aussi un personnage de cette histoire.
Je crois que vous avez touché quelque chose en parlant du sentiment de tristesse dans la tête du Saint-Martin. Et tout d'un coup, grâce à vous, je vois davantage le tableau comme une des œuvres de miséricorde. Vous voyez, comme un témoignage chrétien de l'œuvre de miséricorde, vêtir celui qui est dévêtu. Vous voyez.
Oui, parce que je vous en prie, le religieux, en fait, c'est très important pour le Greco. C'est quand même un grand peintre de la religion.
En plus, nous étions dans une chapelle. À l'origine, ce tableau est dans une chapelle qui est très petite, mais extrêmement saisissante, où il était accompagné de 3 autres tableaux avec des vues de Tolède. Mais chacun de ces tableaux a un sens spirituel très fort. Et ici, je suis très frappée par ce que vous venez de dire.
Il nous reste assez peu de temps avant la fin de cette émission. Quels pourraient être les tableaux qu'il faudrait absolument voir pour comprendre l'évolution et la manière dont le Gréco termine en tant qu'artiste sa vie?
Est-ce qu'on a encore le temps de parler de deux tableaux? Donc peut-être moi je parlerai de cette Pietà ici et puis Véronique
de la fable.
De la fable et du souffleur. On peut commencer par la Pietà. Ouais, ouais. Cette grande Pietà qui est, bon, c'est un vrai événement de l'avoir dans cette exposition. C'est une Pietà qui est en collection particulière et qui n'avait pas été présentée au public depuis 1982. Donc moi personnellement je l'avais jamais vue et c'est vrai quand elle est sortie de la caisse j'ai été extrêmement émue par ce tableau. On parlait tout à l'heure de la dette qu'a Gréco envers Michel-Ange, et là je pense que vous avez bien en tête les Pietas de Michel-Ange avec le corps du Christ donc mort sur les genoux de sa mère, avec cette extraordinaire torsion de ce corps et ce traitement magnifique des chairs grisées
oui,
du corps mort.
Tout à fait gris.
Tout à fait
blanc.
Gris et blanc, bah c'est à mort. Donc, et c'est aussi un travail sur la lumière hein, et sur ces chairs nacrées. Et quand c'est vrai aussi que c'est un tableau qui est particulièrement émouvant à cause de son cadrage, ce cadrage un peu resserré sur les quatre protagonistes de cette scène, une lumière très dramatique, comme vous le disiez, fait ressortir par des touches de blanc, fait ressortir le gris du cadavre, mais qui fait ressortir aussi des couleurs d'une audace et d'un raffinement magnifique. On parlait de Gréco coloriste, je crois que là on est dans un des apogées de ce sens de la couleur avec
de l'or, du vert, du bleu très profond,
des bleus très profonds, et puis cette gamme de mauve, parme, violet, vous voyez, très subtil. Si vous regardez aussi, il y a beaucoup de gestes qui sont, je trouve, très émouvants, et notamment quand on regarde les mains de Gréco, on est souvent touché. Il y a la main du Christ. Très élégante, qui repose et puis qui, dans un geste circulaire, referme la composition, et donc cette composition qui tourne sur elle-même. Il y a aussi le très joli geste de Joseph d'Arimathie qui, d'une main, soutient le corps, et vous voyez la façon dont la main et le linge sont peints, sont un grand morceau de peinture. Et puis le geste extrêmement tendre et éploré de la Vierge qui tient avec beaucoup de délicatesse la tête de son fils, et la main de Madeleine aussi qui tient l'autre main du Christ. Donc vous voyez toute une gestuelle aussi qui est délibérément émouvante et qui invite à la piété et devant les souffrances du Christ.
La mise en page ici, dont a parlé Charlotte, très resserrée et tout ça, nous fait aussi penser à la peinture flamande. Nous fait aussi penser à Van der Weyden, qui était à la déposition de croix, était dans les collections royales. Gréco la connaissait. Et il y a là, si vous voulez, absolument pas dans la manière, mais dans la composition, il y a certainement un rapport avec la peinture flamande.
Et vous alors, Véronique Gérard-Powell, votre dernier tableau?
Alors, mon dernier tableau, ce sera la fable, qui est un des tableaux qui montre le Gréco dans une peinture non religieuse, non portrait, dans une peinture de genre, qui est ce qui est caractéristique du climat romain. Hein, dans lequel il a passé quelques années, mais ce sont des œuvres qu'il a peintes plus tard, et si vous voulez, qui sont comme le jeune souffleur, que le jeune garçon soufflant dans une braise que nous avons ici, sur une braise, qui est plutôt dans la tradition de l'Ecphrasis, mais quand nous avons devant nous cette fable, qu'il a peint en plusieurs exemplaires.
Alors, qui représente quoi?
Alors, cette fable, elle a toujours gardé ce nom de fable. Et on a eu du mal à la préciser. Elle représente parfois un jeune garçon, souvent dans des dérivations, ça devient une femme, et avec un singe et un homme qui a quand même l'air un petit peu bizarre, un petit peu méchant. Et alors, l'idée de départ du centre, c'est cette idée que l'on trouve déjà chez Pline, de montrer le naturalisme en voyant le visage déformé de quelqu'un qui souffle sur une braise. Mais au-delà de ça, on a trouvé des symboles avec la luxure du singe avec la luxure, vous voyez, des tas de rapports. Je ne voudrais pas rentrer dedans, mais je voudrais vous montrer comment, ici c'est une peinture qui datait de 1585, c'est un des meilleurs exemplaires qui soit, comment nous nous trouvons ici, dans ce qui était le plus moderne de ce qui se faisait à Rome à cette époque-là. hein, et qu'il a repris constamment. On est dans un travail sur nocturne. Si quelqu'un arrive ici et vous dit c'est du Caravage, vous voyez, ouais, avec tout ce qu'on donne à Caravage, pourquoi pas? Vous voyez, il y a ici un autre reflet, hein, de Gréco, avec un intérêt pour les contrastes violents de lumière, hein, pour le naturalisme.
Et on est là dans une scène quotidienne, ce qui n'est pas habituel pour le Gréco. Qu'est-ce que ça peut signifier pour vous? Il y a justement quelque chose qui est de l'ordre vraiment de l'émotion directe et même d'une émotion, comment dirais-je, très intime.
Oui, ça me montre aussi, alors moi je suis quelqu'un de très pratique, ça me montre aussi que Gréco avait une clientèle, non seulement pour de la peinture religieuse, non seulement pour des portraits, mais aussi pour des scènes, hein, qu'on appelait à l'époque des fables, et que donc il n'était pas restreint au monde religieux, même si c'est un archevêque qui a possédé un des exemplaires de cette peinture, qui reste encore très énigmatique, mais qui est un thème à la mode à ce moment-là.
Et moi, j'ajouterais une chose que j'aime beaucoup dans ce tableau. Si vous voyez, il y a au centre de la composition, cette figure ici qu'on pense plutôt être un jeune garçon qui tient une braise. Et au fur et à mesure qu'il souffle sur la braise, son visage s'éclaire. Et si vous voulez, Gréco a peint avec beaucoup d'art cette manière dont le souffle crée la lumière. Et on a l'impression, si vous voulez, quand on regarde ce tableau, si on passe un petit peu de temps devant, on a l'impression de ressentir la manière dont le souffle permet à la lumière de se diffuser. Mmh. Comme si, s'il arrêtait de souffler, l'obscurité tomberait.
Et aussi la fascination des deux personnages et aussi du petit singe qui est complètement captivé par le feu de la braise.
Alors il y a sans doute un sens moralisant assez amusant autour des dangers de jouer avec le feu. Et bon, il y a eu beaucoup de lectures de cette scène compliquée. Une chose est sûre, c'est que vous voyez que ce petit singe qui a l'air bien intelligent et bien plus intelligent que notamment la figure de droite qui a l'air de rire de manière un peu stupide, ce petit singe intelligent et fasciné par la braise, il est enchaîné, il a une chaîne qu'on aperçoit. Et donc on l'a souvent interprété comme une allégorie du péché. Et d'où cette idée des dangers de jouer avec le feu. Mais au-delà de peut-être la portée moralisatrice ou de lien avec des proverbes contemporains.
Plus intelligent.
Voilà, là en l'occurrence, il est plus intelligent. Mais au-delà de ça, il y a aussi cette fascination, voilà, pour la source antique, hein, du souffleur et du texte de Pline dont parlait Véronique. Et puis cet exercice très virtuose de faire, voilà, de la lumière liée au souffle.
On va s'arrêter là. Malheureusement, il y a encore beaucoup de tableaux à voir, mais les auditeurs pourront venir ici pour s'en rendre compte eux-mêmes. Merci beaucoup, Charlotte Chastel-Rosso. Merci beaucoup, Véronique Gérard-Powell. Je rappelle donc que cette exposition se trouve au Grand Palais. Elle dure jusqu'au 11 février 2020. On peut se procurer le catalogue si l'on ne peut pas venir pour la voir directement. C'est aux éditions de la RMN. Il y a également le petit livre Découverte Gallimard que l'on vous doit, Charlotte Chastel-Rosso. C'est dans la collection Carnet d'Expo. C'était La Compagnie des œuvres, une émission de Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Hélène Rivière et Yann Frécy. Demain, nous parlerons toujours du Gréco, mais cette fois dans le contexte du siècle d'or. Nous serons pour ce faire avec Guillaume Kintz, qui est le co-commissaire de cette exposition qu'on vient de visiter avec Charlotte Chastel-Rosso. Il est également l'auteur d'un livre sur ce siècle d'or espagnol aux éditions Citadel et Masno. Dans un instant, on retrouve les sciences sur France Culture.